Il a réalisé les films qui ont marqué le cinéma français. On lui doit Les Bronzés font du ski, Les Bronzés 3, Le mari de la coiffeuse, Ridicule, Les Grands Ducs. Et aujourd'hui, il signe son 30e film qui est Maigret, la jeune morte, l'adaptation du roman de Georges Simenon. Bonjour Patrice Lecomte.
Bonjour Thomas.
Vous venez de signer votre 30e film. Pourquoi avoir choisi Maigret ?
Par amour de Simenon. J'ai lu Simenon, en tant que lecteur, j'ai découvert Simenon quand j'étais adolescent. J'ai lu déjà des Maigret et je suis passé aux romans non Maigret que Simenon appelait les romans durs après. Et avec Jérôme Tonnerre, qui est amateur, avec qui j'ai écrit cette adaptation et qui est grand amateur comme moi de Simenon, on a eu envie de relire des Simenon, et c'est lui qui m'a dit « et si on lisait des Maigret ?» Parce que Maigret, au cinéma, il n'y en a pas eu depuis très longtemps, 1961, je crois, à la télévision plein, et on a eu envie de faire notre Maigret.
Maigret, Brigade criminelle, 36 quai des Orfèvres.
Parmi les 75 romans du commissaire Maigret, comment vous avez fait votre choix ?
Ah ben, le choix était très simple. Déjà, on a éliminé, moi je voulais, d'un Maigret qui se passe à Paris, qui est des orfèvres, tout ça. Enfin, Maigret, pour moi, c'est un personnage parisien. Donc, ça a éliminé tous les Maigrets qui se passaient ailleurs. Ça a un peu restreint le choix. Et on s'est partagé le travail avec Jérôme Tonnerre, enfin, si tant est que ce soit du travail. Et c'est lui qui a lu ce roman, Maigret, la jeune morte, et qui m'a dit, je crois qu'on a notre roman. Et si ça nous a plu, je l'ai lu aussitôt et j'ai été bouleversé par cette histoire parce que une jeune fille de moins de 18 ans est trouvée morte, square des Batignolles, lardée de coups de couteau, et personne ne sait qui elle est, ce qu'elle faisait là, personne ne semble la connaître.
La victime non identifiée, le sexe féminin. On relève 5 plaies par arme blanche. Les coups ont été donnés de manière désordonnée à bout portant.
Et Maigret, qui était un peu fatigué, un peu au bout du rouleau, qui n'avait plus trop le goût de rien, d'un seul coup reprend de l'intérêt pour cette jeune fille, pour cette jeune morte. Et ce qui nous a touché beaucoup, parce que ça, alors pour le coup, c'est vraiment très original dans une histoire policière, c'est que le commissaire Maigret enquête pour savoir qui était la victime, davantage que savoir qui a fait le truc. Et ça je ne connais pas de roman où on enquête sur la victime, quoi.
Quelqu'un a voulu faire disparaître cette jeune fille inconnue, mais elle a forcément laissé des traces, là, quelque part.
Et en parlant du commissaire Maigret, quel personnage est-il ?
Maigret, j'ai presque envie de dire que c'est quelqu'un comme vous et moi. Je veux dire par là que c'est quelqu'un de normal. C'est quelqu'un de profondément humain, qui s'intéresse aux autres, qui regarde, qui écoute. Mais ce n'est pas un super flic. Et c'est vrai que les flics emblématiques, bon, Sherlock Holmes, il n'était pas flic, mais enfin bref, ou Hercule Poirot, bien sûr, d'Agatha Christie, c'est des super héros, enfin, à leur manière, quoi, parce qu'ils arrivent, ils trouvent un indice, ils déjouent le truc facilement. Lui, Maigret, il est beaucoup plus modeste et humble, il se trompe, il n'a pas de certitude, il avance. Il le dit d'ailleurs à un moment dans le film, il dit « je tâtonne, je cherche, je ne sais pas, j'attends, je vois ». Et ça, j'adore ce comportement-là, ce comportement qui est de ne pas avancer avec des certitudes, mais d'être dans le doute. Et à force d'être dans le doute, il y a la lumière.
Comment vous faites pour qu'ils parlent, vos suspects ?
Rien, je les écoute. Mon devoir est de chercher ce qu'on appelle la vérité.
Alors, différents acteurs ont incarné ce rôle, notamment Jean Gabin. Et vous avez choisi Gérard Depardieu. Pourquoi Gérard Depardieu pour ce rôle ?
Eh bien, parce qu'il n'y a pas le choix. Non, mais je plaisante en disant ça. Il se trouve... parce que quand c'est dit comme ça, c'est comme si j'étais bien obligé de prendre Depardieu, il n'y a personne d'autre. Non. En fait, je n'ai jamais fait de film avec Depardieu. J'ai vu beaucoup de films. C'est un acteur que j'admire énormément. Et au-delà d'admiration, j'ai beaucoup d'affection pour lui. Et je lui ai dit d'ailleurs, et ça l'a touché. On ne s'était jamais rencontrés vraiment. Et c'est vrai que j'avais envie, un jour ou l'autre, si une jolie occasion se présentait, j'avais envie qu'on travaille ensemble, qu'on fasse du cinéma ensemble. Et l'occasion de Maigret était plus belle que jamais, quoi, parce que Maigret est un personnage épais, silencieux, enfin... Et Depardieu est exactement ça. D'ailleurs, quand je lui ai proposé ça, il m'a dit oui sans lire le scénario. Il m'a dit oui, bien sûr. parce qu'il avait envie qu'on fasse du cinéma ensemble, parce qu'il a sans doute un peu d'admiration pour ce que j'ai pu faire. Enfin, j'en sais rien. Enfin, j'imagine, j'espère. Et puis parce que je lui proposais de jouer un personnage aussi grand que lui. C'est-à-dire que Maigret est connu sur la terre entière et Depardieu aussi. C'est-à-dire de se frotter à un personnage aussi grand que lui l'a vraiment motivé. Alors après, je lui ai dit, mais lis le scénario quand même. Il dit, oui, je lis le scénario. De toute façon, je ferai le film. Il a lu le scénario et il m'a dit, tu vois, j'avais raison. il a été exemplaire, quoi. Exemplaire de talent, de confiance aussi, de talent surtout.
Sans trop en révéler sur le film, il y a plusieurs choses qui marquent dans le film, notamment la temporalité. Je ne parle pas de temporalité par rapport à l'époque dans laquelle se déroule cette enquête, mais je parle plutôt du temps qui passe sur le film, c'est-à-dire les silences. Il y a un charisme dans ce film, entre la lumière, qui a une lumière très particulière, et le temps posé, qui va à l'inverse des films que l'on trouve aujourd'hui, dans lesquels on a un bruit constant, et un Gérard Depardieu qui a su complètement poser le personnage.
Oui, oui, mais ça me touche beaucoup ce que vous dites, parce que c'est vrai que quand je voyage à l'étranger et que des gens me parlent du cinéma français, on décrit souvent à l'étranger le cinéma français comme étant un cinéma très bavard, trop bavard. Est-ce que c'est la descendance de Molière, etc. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, on dit souvent que le cinéma français est trop bavard. Et j'ai essayé avec Maigret, j'ai essayé de profiter de Maigret pour faire un film qui ne soit pas trop bavard et qu'on profite des silences, des regards, du temps qui passe, pas pour s'ennuyer, pas du tout, mais pour que ces silences soient habités, pour que toutes ces pénombres signifient quelque chose. Alors, c'est pas un film trépidant, ça je suis d'accord, il n'y a pas de poursuite en bagnole, il n'y a pas de coup de feu, il n'y a pas toutes ces choses formidables d'aujourd'hui. C'est un film plus attentif, quoi. Porter attention aux autres, aux gens, aux personnes, et au silence aussi. Oui, oui, j'ai adoré faire ça. Le film, il n'y a pas beaucoup de dialogue dans le film. Enfin, il y en a bien sûr, mais pas beaucoup.
Ça vous intéresse vraiment que je vous raconte ma vie ?
Ça m'aide un peu à comprendre, une fille comme toi.
Elle s'appelait Louise.
Pourquoi avez-vous dit elle s'appelait ?
Alors j'évoquais justement la lumière et ça m'a vraiment marqué dans le film parce que vous jouez justement beaucoup avec l'ombre du commissaire Maigret.
Oui, mais la lumière m'a toujours passionné. Il y a un moment que j'aime par-dessus tout quand on prépare un film, c'est quand on va sur les décors, les repérages et tout ça avec le chef opérateur et le chef décorateur, et que tous les trois, on se pose cette question essentielle, d'où vient la lumière ? Est-ce qu'elle vient de ce petit Vassistas là et qu'elle va mettre ça dans... Enfin, bon, toutes ces questions qui concernent la lumière me captivent, me passionnent vraiment. Et c'est vrai que par rapport à un film comme Maigret, qui est un film un peu crépusculaire, Maigret est un peu à la fin de sa vie, il est revenu de plein de choses. Donc, il y a des zones d'ombre. Et les zones d'ombre, c'est un peu balourd de dire ça, mais c'est la métaphore des zones d'ombre, des gens qui cachent des choses, qui ne disent pas tout, qui mentent, qui dissimulent. C'est les zones d'ombre de la vie, en fait. Et Maigret est là pour... petit à petit, mettre un peu en lumière des choses qui resteraient dans l'ombre. Donc, c'est une métaphore visuelle. J'ai presque honte de dire ça parce que c'est lourd, mais enfin, c'est ça, quoi.
Vous venez de signer votre 30e film. Êtes-vous déjà sur un nouveau projet ?
Oui, oui, il y a plusieurs trucs qui sont en route parce que je n'ai plus tout à fait 25 ans, donc je ne peux pas perdre mon temps à glandouiller. Et avant Maigret, entre Maigret et le film d'avant, il s'est écoulé 6 ans. C'est beaucoup trop, mais 6 ans pendant lesquels j'ai pas glandé. Il y a eu 4 projets de suite qui sont tombés à l'eau pour des histoires de financement. Enfin bon, c'est compliqué, c'est devenu compliqué de faire du cinéma. Enfin bon, on y arrive quand même. Et là, je suis un projet. Enfin, c'est pas un projet parce que je vais tourner en 2023. C'est une mini-série de 2 fois 52 minutes pour une plateforme qui est consacrée d'une manière assez originale et assez décalée, pas décalée non, mais originale et personnelle, à Louis Braille, l'homme qui a inventé, quand il avait 15 ans, le langage pour les sourds, pour les aveugles, pas pour les sourds, pardon, pour les aveugles. C'est nul, c'est la fatigue sans doute. Et puis je suis en train de travailler aussi sur un truc qui est sans doute un peu plus lointain, mais pas trop lointain, et qui ne sera pas un Maigret numéro 2, mais qui sera un film que j'ai envie de faire avec Gérard Depardieu. Parce que on s'est tellement bien entendu, il me dit « Quand est-ce que tu m'écris un film ?» Je dis « Bientôt Gérard, t'inquiète pas. » Alors donc, j'ai tellement envie de filmer à nouveau cet homme-là que y a un truc qui me trotte en tête.
Depuis 40 ans, vous avez travaillé avec les plus grands acteurs français et j'ai été surpris, mais en préparant cette interview, je me suis rendu compte que c'était la première fois que vous travailliez avec Gérard Depardieu.
Oui, c'est très inattendu en effet, parce que j'aurais pu, je ne dis pas que j'aurais dû, mais j'aurais pu travailler avec lui, mais quand on a envie de travailler un jour ou l'autre avec un acteur ou une actrice, il me semble qu'il ne faut pas s'obliger, il ne faut pas se forcer. Avec un chausse-pied pour à tout prix faire un film avec Adjani ou je sais pas qui. Et je préfère, un peu comme Maigret d'ailleurs, je préfère attendre que ça arrive et que la belle occasion soit entre mes mains d'une manière spontanée. Et quand on a écrit Maigret, on n'a pas écrit Maigret pour se dire « Ah tiens, enfin, je vais pouvoir travailler avec Depardieu », on a écrit Maigret parce que ça nous plaisait d'écrire Maigret. Et puis assez vite, c'était l'occasion rêvée de proposer quelque chose à Depardieu et de faire du cinéma avec lui.
Vous êtes un amoureux de la comédie et je suis désolé, mais je me sens obligé de vous parler des Bronzés.
Non, mais ne soyez pas désolé, je rencontre assez régulièrement des journalistes qui me disent « Bon, alors les Bronzés, on oublie. Hein. » Je dis « Comment ça, on oublie ?»« Mais vous êtes fous, on n'oublie pas les Bronzés. » Jamais, plutôt crever. Mais ça a été des films tellement importants pour moi. C'est des films… Vous vous rendez compte que je ne sais pas combien d'années plus tard, près de 30 ans plus tard, on me parle encore des Bronzés. Ça repasse à la télévision, ça continue à faire marrer les gens. C'est un peu comme si on avait inventé le film inusable, quoi. Et je trouve ça. Moi, je suis très fier d'avoir fait Les Bronzés, vraiment très fier. Et même si j'ai fait les choses assez différentes ensuite, ça c'est vrai, jamais je ne renierai Les Bronzés. C'est des films trop importants pour moi.
Mais quel exercice difficile de passer de la comédie comme Les Bronzés au film d'époque avec Ridicule ou encore du polar avec Maigret. Mais comment faites-vous pour arriver à réaliser autant de films dans des thématiques et des topics différents?
Je vais vous dire, en fait, j'ai une hantise, c'est de m'ennuyer. Et parce que si moi je m'ennuie, la deuxième hantise qui est conjointe, c'est d'ennuyer le spectateur. Et ça me terrifie, l'idée que je pourrais ennuyer les spectateurs et m'ennuyer. Donc je préfère faire des choses très différentes les unes des autres parce que ajouter à cela le fait que j'adore faire des choses que je ne suis pas sûr de savoir faire. Je trouve ça extrêmement motivant. Quand on aborde quelque chose, un film ou n'importe quoi d'autre, et qu'on dit « t'inquiète pas, moi je sais, pas de problème », c'est là qu'on se plante et qu'on se prend les pieds dans le tapis. Quand on aborde quelque chose dont on n'est pas sûr, j'espère que je vais savoir, j'espère que je vais être à la hauteur, etc., c'est infiniment motivant. Je ne suis pas maso, hein, c'est pas ça, mais ça me pique le cul de faire quelque chose que je ne suis pas sûr de savoir faire. Voilà pourquoi.
On parle souvent de ce qui se passe devant la caméra, mais rarement de ce qui se passe derrière la caméra. Quelle a été l'ambiance pendant le tournage des Bronzés? L'équipe technique, ça devait être une énorme famille?
De toute façon, une équipe technique, c'est une énorme famille. C'est une famille provisoire. Je ne dis pas que c'est une famille d'accueil, mais c'est une famille provisoire. On est tous ensemble, on se voit du matin au soir, tous les jours, pendant 2 mois, et puis la préparation, etc. Et puis après, on débranche la prise et la famille, elle part dans d'autres familles, et puis on se retrouve un jour ou l'autre peut-être. Mais pour tous les films, c'est pareil. Il y a une espèce d'enthousiasme que j'essaye de communiquer, que j'arrive à communiquer, l'enthousiasme de faire un film, qui est un enthousiasme qui n'a pas de prix. Évidemment. Et sur les Bronzés, les trois films, les trois Bronzés sont des films très écrits. Il n'y a pas un demi-gramme d'improvisation, rien n'est laissé au hasard. Les acteurs sont super professionnels, ils connaissent le texte au rasoir. Il n'y a que comme ça qu'on peut faire des comédies avec du rythme. C'est des films. Tant mieux si ça ne se voit pas, mais c'est des films très préparés, très préparés. Bon, évidemment, dans les Bronzés font du ski. Quand ils sont recueillis par les paysans et qu'ils boivent cet alcool impossible et qu'ils sont à bout de souffle, on ne marque pas dans le scénario Gérard Jugnot. Il faut bien que les acteurs aient des trucs à faire au dernier moment, bien sûr.
Et l'alcool, alors, c'était du vrai ou du faux?
Non, Non, non. Alors, je sais que dans les Tontons Flingueurs, quand il y a une scène un peu similaire et à laquelle on rend hommage à notre manière, quand ils boivent, ils disent oh, c'est du rude, c'est du fort, c'est pas de la boisson pour mon vieux, je sais pas quoi. La scène avec Blier, Ventura, Francis Blanche, je sais plus, enfin, dans les Tontons Flingueurs, il semblerait qu'ils aient mis vraiment un alcool très fort, genre vodka ou autre, et qu'à la fin du tournage, ils étaient torchés. Mais sur les Bronzés, non, non, c'était de l'eau.
Merci beaucoup, Patrice Lecomte.
Merci infiniment, Thomas. Merci beaucoup,
Thomas.
Alors, toutes tes certitudes s'effondrent d'un coup.